Laudetur Jesus Christus.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonsoir à tous. C'est un duel qui sera suivi en direct par des millions d'Américains. À la maison, chez des amis ou au bar, le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden à 35 jours de la présidentielle. Les deux adversaires politiques s'affronteront à Cleveland, Ohio, un état clé pour une soirée clé. Et le président Donald Trump, candidat à sa réélection, compte bien renverser la tendance. Marie Duhamel.
Donald Trump est actuellement distancé dans les sondages et ne voudrait pas devenir le premier président américain à ne pas être réélu à sa succession depuis George W. Bush il y a 28 ans. Les sujets sur lesquels doivent débattre les deux septuagénaires pendant une heure et demie, l'économie, la Cour suprême, les questions raciales et bien sûr la Covid-19, comment l'oublier, c'est la grande invitée de ce débat réalisé sans la classique poignée de main entre les candidats et avec un public très limité. Pour le président sortant, le calendrier est mauvais, ce débat survient alors qu'une enquête explosive vient d'être publié concernant sa situation fiscale. Pour renverser la vapeur, Donald Trump peut compter sur sa capacité à suspendre et à casser les codes, raillant au passage Joe Biden, qu'il aime surnommer Joe l'endormi. Du côté des démocrates, on mise sur l'expérience politique de Joe Biden, sur sa constance, sa capacité à résister aux coups donnés par le milliardaire. Si cette soirée est un événement dans la campagne, l'impact sur le scrutin reste en général limité. Mais ce soir, celui qui sortira vainqueur du duel pourrait remporter l'Ohio, état clé encore susceptible de basculer d'un côté ou de l'autre.
Et deux prochains débats présidentiels auront lieu les 15 et 22 octobre à Miami en Floride et à Nashville dans le Tennessee. Les combats ont continué aujourd'hui dans le Caucase entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie dans la région disputée du Haut-Karabakh. Une nouvelle fois, la Turquie s'est dite déterminée à aider l'Azerbaïdjan. Berlin et Washington ont eux appelé à un cessez-le-feu immédiat et le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit ce soir en urgence pour tenter d'éviter une guerre ouverte entre Erevan et Bakou. C'est sa première apparition publique depuis cet hiver et sa rocambolesque évasion du Japon. Le mania de l'automobile Carlos Ghosn s'est rendu aujourd'hui dans une université de Beyrouth pour y présenter une formation. L'ancien PDG de Renault-Nissan était arrivé en décembre à Beyrouth pour fuir des accusations de malversation financière au Japon, où il avait passé 130 jours en détention. On reste au Liban où, après avoir été contenu à ses débuts, la pandémie de coronavirus semble maintenant gagner du terrain avec plus de 37 000 contaminations et 351 décès pour une population de 5 millions d'habitants. Mais c'est dans les prisons où la situation inquiète le plus, avec des centaines de cas parmi les détenus et les gardiens. Les explications à Beyrouth de Paul Khalife.
Dans la prison de Roumié, le plus grand centre carcéral du Liban, la situation est dramatique. Près de 10% des 4000 détenus ont été testés positifs et des dizaines de membres des forces de l'ordre sont également contaminés. La situation est difficile car cette prison accueille 3 fois plus de détenus que sa capacité initiale. Dans la prison de la ville de Zahle, dans la plaine orientale de la Bekaa, presque la moitié des 550 détenus ont été testés positifs. Des centaines de tests de dépistage du virus ont été menés dans les établissements pénitentiaires pour tenter de déterminer l'ampleur du problème. Les détenus atteints sont isolés et mis en quarantaine dans des bâtiments spécialement aménagés dans les prisons. 3 hôpitaux spécifiquement dédiés aux détenus ont été préparés à Beyrouth et dans la Bekaa. Mais il ne s'agit là que de solutions palliatives, car le virus continuera à se propager tant que le problème de la surpopulation des prisons n'est pas réglé. Le bâtonnier du barreau de Beyrouth, Melhem Khalaf, a appelé les tribunaux à accélérer les procédures pour juger des milliers de détenus en attente depuis parfois des années. Paul Khalife, Beyrouth, pour Radio Vatican.
Les autorités françaises ont procédé ce matin au démantèlement d'un camp de migrants à Calais, dans le nord de la France. C'est le plus grand démantèlement depuis celui de la tristement célèbre jungle de Calais en 2016. Plus de 600 personnes ont été évacuées dans une trentaine de bus au petit matin vers 7h30, conduites vers des centres dans tout l'Hexagone. 34 d'entre elles, en situation irrégulière, ont été arrêtées. La Guinée ferme ses frontières avec ses voisins, le Sénégal et la Guinée-Bissau. Les autorités guinéennes n'ont pas communiqué sur cette information. Avant cette fermeture des frontières, de nombreux Guinéens résidant à Bissau et souhaitant participer à la présidentielle qui se tiendra le 18 octobre avaient fait part de leurs difficultés pour s'inscrire au consulat et avaient commencé à tenter de rentrer dans leur pays pour pouvoir voter. Une fermeture des frontières qui bloque également l'accès à la communauté Peul guinéenne, fortement présente dans les pays voisins, est traditionnellement opposé à Alpha Condé qui espère remplir pour un troisième mandat. L'émir du Koweït, le Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, est mort aujourd'hui. Il avait 91 ans. En 2010, le Cheikh avait été reçu au Vatican par Benoît XVI. Les deux hommes s'étaient alors entretenus autour du sort des minorités chrétiennes au Moyen-Orient. Direction à présent dans notre dossier en Afghanistan. Un pays prêt à tourner la page après plus de 19 années de conflit. Des négociations de paix historique ont débuté le 12 septembre dernier à Doha, au Qatar, entre des représentants politiques afghans et les talibans. Et cela après la signature d'un accord entre les États-Unis et les talibans en février dernier qui prévoyait la tenue de ce dialogue inter-afghan. Et pendant ce temps, la guerre continue de faire rage dans le pays et ce chaos n'est pas sans conséquences sur l'économie, sur fond de pandémie de coronavirus. Le pays est l'un des plus pauvres du monde avec un important secteur de culture illicite du pavot permettant de produire plus de 80% de l'opium mondial. Adam Bachko est chercheur au CERI Sciences Po et au CNRS. Il analyse ce soir pour nous la situation économique actuelle en Afghanistan.
L'Afghanistan est dans une situation économique particulièrement critique. Le retrait de la plupart des forces occidentales et avec le retrait de toutes les entreprises, ONG, organisations internationales qui accompagnaient l'intervention, c'est traduit par une crise économique sans précédent en Afghanistan. L'économie qui s'était construite depuis 2001 s'est beaucoup construite autour de l'intervention internationale. Et donc, outre le fait que des dizaines de milliers d'Afghans se sont retrouvés sans emploi, c'est tous les investissements qui accompagnaient cette intervention qui ont disparu, alors même que celle-ci n'a pas produit d'économie autonome. On est dans un pays où 80% de la population vit d'une agriculture de subsistance, avec une agriculture qui est absolument pas compétitive avec les pays autour, et qui se trouve vraiment dans une situation catastrophique avec le coronavirus, puisque le pays est touché de plein fouet, avec une grande difficulté à traiter la maladie, puisqu'il n'y a pas de système de santé véritablement fonctionnel dans le pays, il y a très peu de capacité de prise en charge de la population, et les infrastructures sont dans un état profondément détruites. Les routes qui ont été construites pendant la période de l'intervention ont été construites avec tellement de corruption du côté des internationaux qu'aujourd'hui une grande partie de ces investissements ont disparu et que beaucoup de routes en fait sont boueuses alors qu'elles avaient été construites il y a moins de 10 ans. C'est vraiment une situation économique absolument déplorable.
Alors l'économie afghane repose grandement sur la culture du pavot. À qui profite ce commerce de l'opium dans le pays ?
L'opium joue un rôle énorme dans le PIB. Il y a trois niveaux auxquels des gens vont ponctionner de l'argent. Il y a d'abord les cultivateurs qui ne font que subsister. Ils ne gagnent très peu d'argent de la culture du pavot. Et historiquement, c'était autour d'eux que les talibans, l'insurrection qui se bat contre le régime, récoltaient de l'argent. Le véritable niveau de profit commence pour ceux qui sont capables de déplacer la marchandise. Les gens qui récupèrent la gomme de pavot produite par les cultivateurs et qui la déplacent vers la frontière, qu'on trouve des gens qui commencent à s'enrichir, qui historiquement étaient du côté du régime jusqu'en 2014. Avec les progrès militaires talibans, les talibans ont pris le contrôle de ces circuits-là. Et enfin, le gros du profit, c'est les laboratoires de transformation qui aussi étaient du côté du régime jusqu'en 2014, que les talibans ont pris en charge ces dernières années et qui participent de leur financement et de leur supériorité vis-à-vis des forces du régime aujourd'hui.
Un autre volet maintenant, l'accord de paix signé entre les talibans et le gouvernement. Peut-on en attendre des retombées économiques ?
L'accord de paix, fondamentalement, n'a pas un véritable volet économique. Il est d'abord un accord qui vise à essayer de gérer la situation. Les États-Unis aujourd'hui ont dit qu'ils se retiraient et que le régime qui n'a pas la capacité de tenir face aux talibans tout seul est obligé de négocier en position de faiblesse. Le volet économique là-dedans est fondamentalement quelque chose d'extrêmement marginal. Avant même qu'il puisse y avoir des retombées économiques de l'accord de paix, c'est le fait qu'il y ait un accord de paix qui est une véritable question. Les talibans sont en position de force sur le terrain et ils sont en position de force dans les négociations et leur intérêt est un jour de prendre le pouvoir à Kaboul. Ils ont le temps, les États-Unis se retirant et ayant promis de se retirer dans les 12 prochains mois. Les talibans ont toutes les raisons de faire traîner cet accord pour obtenir ce qu'ils veulent. Et donc, si vous voulez, le volet économique là-dedans est extrêmement marginal. La population afghane n'a pas vraiment son mot à dire dans ces négociations.
Voilà le chercheur Adam Bachko. Il était interrogé par Adélaïde Patrignani. Le prochain retour de l'information, c'est demain matin à 8h30. Je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir.